Radio Résistencia.
On ne la connaît pas, et pour cause, tout le monde connaît son frère Karl Lagerfeld, le célèbre couturier. Eh bien, Carla Lagerfeld, elle était de passage à Genève pour la sortie de son dernier ouvrage, Une robe de chambre à soie, dans lequel elle rend hommage à son frère qui, selon elle, est injustement exposé, injustement médiatisé, voire même idolâtré. C'est un livre qui tente de réparer une certaine injustice. J'ai tout d'abord demandé à Carla Lagerfeld pourquoi ce besoin de parler de cette injustice. Pourquoi ce livre ?
Écoutez, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que je voulais un peu réparer, faire un peu amende honorable. C'est vrai que j'ai longtemps profité de mon statut féminin et je n'ai pas voulu voir la souffrance masculine, à commencer par celle de mon frère. Dans ce livre, j'avais envie de reconnaître à quel point ma condition de fille a été un privilège et combien la distribution des rôles a été sans doute très douloureuse pour Karl. Je raconte sa souffrance parce que ça permettra peut-être aussi à d'autres hommes de peut-être sortir de la lumière, d'avoir le courage de quitter la lumière. C'est pas rien. Et je pense que de la même manière, ça n'a pas toujours été facile pour Karl d'exister dans le sillage de sa sœur inconnue qui a pu sans effort rester dans cette réserve tellement enviable.
Créateur, photographe, réalisateur ou encore dessinateur, Karl Lagerfeld est un artiste et un homme d'affaires qui règne sur l'empire de la mode.
50% d'une réussite dans la vie, c'est d'être impeccablement habillé.
Tiré à quatre épingles, il maîtrise son image et occupe le devant de la scène sans le moindre complexe.
Il n'a pas fait du porte-à-porte pour le médiatiser. Je suis arrivé à me styliser à un tel degré. Que je suis comme une espèce de marionnette. Et je suis quand même arrivé à projeter cette marionnette, pas uniquement dans un pays, mais dans le monde entier, puisque je peux aller dans la rue nulle part.
Et voilà que vous avez donc décidé aujourd'hui de vous engager pour la cause des hommes, aux côtés des pionniers qui, en Suisse, par exemple, ont commencé, il y a 40 ans, à exiger des femmes le partage des tâches politiques.
Oui, je le dis un petit peu dans le livre, c'est pour ça la métaphore de la robe de chambre à soie, de pouvoir un peu rester dans sa robe de chambre. C'est important de rester dans sa robe de chambre. C'est un privilège que peu de hommes ils ont de pouvoir rester dans la robe de chambre le matin. Oui, les femmes, elles s'arrangent depuis la nuit des temps pour les faire porter aux hommes. Donc, pas les robes de chambre. Elles font porter les tâches politiques. Et moi, j'ai fait la même chose d'une certaine manière. Ce n'est pas les tâches politiques, mais c'est la célébrité, c'est la notoriété, c'est l'influence. Alors, comme je le raconte dans le livre, femme dominante, il faut le reconnaître, c'est tellement inscrit pour nous dans presque notre patrimoine biologique, et on ne s'en rend même plus compte. Alors j'ai laissé faire comme les autres. Et ce pauvre Karl, il est devenu un exemple d'exploitation médiatique, je suis obligée de l'avouer aujourd'hui.
Vous ne pouvez plus finalement vivre dans le déni, c'est fini tout ça.
C'est plus possible, non, ce n'est plus possible, je suis un petit peu obligée de le reconnaître. J'ai tellement profité de ma vie, tellement privilégiée, de cette liberté, de ma condition de femme, de pouvoir tout le temps aller dans les salons de thé pendant que lui... Il a peut-être lutté pour garder un tout petit peu d'anonymat. Mais qu'est-ce que c'est dans son agenda? C'est peut-être 10 minutes, c'est un quart d'heure. Sinon, il est tout le temps exposé, surexposé. Et comment ne pas étouffer sous cette avalanche de gloire, d'argent, de notoriété, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais bon, la société ne laisse pas le choix aux hommes. À eux, les sales affaires, les sales boulots, les habits moches, les machines qui font du bruit. Et à nous, les tâches nobles, les jolis tissus, les belles matières, les jolies coiffures. Il faut le dire. Pour les hommes, il y a un seul programme qu'il aurait répété depuis la nuit des temps, « Sois moche et bats-toi ».
J'aime la vie facile que le métier de la mode peut offrir, même si en réalité ça ne l'offre qu'aux yeux des gens. Je ne dis pas que je ne suis pas à la perfection humaine ambulante.
Si Karl n'est pas parfait, il aime la perfection. C'est lui qui découvre les plus belles femmes du monde et met en avant l'homme du moment, Baptiste Giaviconi. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Mais Karl sait aussi rester discret. Si, il y a des sujets qui restent tabous.
Pas tout mettre sur le marché. On peut être public, mais il faut quand même être un peu pudique aussi. J'ai pas d'âge, on ne sait pas. C'est malheureusement, j'ai pas de certificat de naissance, on ne sait pas exact.
Karl Lagerfeld, vous êtes d'origine allemande. J'aimerais avoir votre avis sur Angela Merkel, première femme chancelière. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, son parcours politique surtout?
J'ai beaucoup d'admiration pour Angela Merkel, hein, parce qu'il faut le dire, pour une Angela Merkel qui accepte de mettre les mains dans le cambouis, hein, combien d'autres qui ne rentrent tout simplement pas en matière? C'est très très injuste. Et en France, qui est par exemple ma patrie de cœur, c'est très exemplaire. Regardez Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. Rien à faire. Carla, elle reproduit sans aucun complexe le même schéma de domination.
Et qu'en est-il de Nicolas Sarkozy, qui doit subir tout cela, non seulement à la maison, mais à l'Élysée aussi, un peu partout dans sa vie publique et politique?
Un homme comme Nicolas Sarkozy n'a toujours pas accès à une garde-robe digne de ce nom. Parce que c'est certain, l'oppression des hommes commence par la garde-robe. C'est pour ça qu'il faut reconnaître Angela Merkel d'avoir fait un extraordinaire geste politique, symbolique. Ses habits sont presque aussi moches que ceux d'un homme. C'est un grand geste. Mais alors, il faut chercher du côté des vrais militants. Vous en avez d'ailleurs un exemple extraordinaire en Suisse. Je suis très, très, très contente de constater qu'en Suisse, comment il s'appelle déjà, il y a un grand militant qui est le mari de votre conseillère fédérale, Madame Calmiret. Comment s'appelle-t-il déjà, le mari de Madame Calmiret?
Je sais pas, je suis désolée, mais c'est le mari de, ouais, c'est le mari de Micheline Calmiret, ouais,
Vous voyez, on ne connaît même pas son nom. Il s'est battu pour l'insignifiance et il l'a obtenu, vous comprenez? C'est la preuve que quand on veut, on peut. La militance porte ses fruits. Être dans l'ombre, c'est possible même pour un homme.
Radio Resistencia.
J'ai eu cette chance de naître du bon côté de la barrière en tant que femme et que j'ai abusé sans état d'âme de mes prérogatives de fille, de femme, sans remettre en cause jamais mes privilèges jusqu'ici. Et depuis ma petite tendre enfance, c'est toujours Karl qui a dû s'y coller. Tout de suite, il a dû aller plonger dans le renom, dans la fortune, dans la gloire, tout ça, toutes ces choses tellement épouvantables. Bon, il a quand même lutté pour au moins un petit peu d'élégance. Il l'a obtenu, mais à quel prix? C'est ça le problème que je parle dans le livre. Hein. Pour un homme, lutter pour l'invisibilité, pour l'insolvabilité, pour
l'élégance.
Pour l'élégance, oui, aussi, surtout. Eh bien, ça se paye au prix fort et souvent, la plupart du temps, il faut choisir.
Il faut choisir, oui. Ah ouais.
Il n'y a que les femmes qui obtiennent sans problème, sans discussion. Les trois choses, hein. L'ombre, l'insignifiance, l'élégance. Oui, les femmes, elles ont ça naturellement. C'est très injuste. Hein.
Arrivé à Paris vers l'âge de 15 ans, il devient à 17 ans l'assistant de Pierre Balmain, puis enchaîne les contrats pour Chloé, Fendi et enfin Chanel. À travers les années, Karl est devenu une icône et une référence dans le milieu de la mode.
Karl est vraiment unique, c'est une sorte de génie.
2016 was the price to pay.
Il n'est pas juste bon en mode, clairement.
C'est l'un des meilleurs designers du monde.
Mais il y a des courants de lutte différents dans le mouvement de cette délivrance masculine.
Oui, c'est ça. Pas tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. Les plus courageux, hein, et moi je partage peut-être un petit peu cette position, un petit peu radicale.
Vous êtes un peu radicale, ouais.
Peut-être parce que je dis commence à avoir de l'âge et qu'avec l'âge, on n'a plus tellement de temps. Hein. Mais enfin, écoutez, sérieusement, les plus courageux, ils exigent tout, ils ont peut-être raison. Il faut que les hommes puissent maintenant acquérir, ça suffit. Désormais, ils puissent avoir accès aux mêmes droits que les femmes. Brushing le matin, shopping à toutes les heures, travail sans salaire, cuisine le soir et puis pof, une claque au dodo. Hein. Enfin, il faut maintenant, ça doit être possible pour les hommes. Alors d'autres, ils pensent qu'il ne faut pas trop demander trop vite, hein, pour sous peine de déboussoler les femmes.
Hein. C'est une espèce d'attitude très détachée, oui, c'est pas coincé. Hein. Il faut traiter, si on a la possibilité d'acheter du luxe, comme si ça ne coûtait pas cher.
Karla Lagerfeld, si on lit votre livre, dont je rappelle le titre, Une robe de chambre à soi, eh bien, ce n'est pas facile d'être le frère de Karla Lagerfeld.
Non, je dois l'avouer, hein, j'ai mis toute une vie à le faire, peut-être, eh bien, c'est à talent égal, c'est moi qui ai automatiquement eu le droit de rester dans la vie discrète, à ne pas devoir exister, pas devoir fournir sans cesse, pas devoir briller sous le feu des médias. La célébrité, c'est tellement ordinaire, tellement vulgaire, et c'est un engrenage. On ne naît pas Karl Lagerfeld tel que vous le connaissez. On le devient à force de lavage de cerveau. C'est un petit peu ça que j'ai voulu développer.
Et pour vous, tout finalement était extrêmement simple, n'est-ce pas? Si on voit l'ascension de votre frère.
Absolument. Depuis l'enfance, toujours à moi, l'élégance naturelle, la finesse, la douceur, la délicatesse, la transparence, les belles choses, toutes ces valeurs tellement dominantes, c'était tout pour moi. Alors quand on pense, imaginez, quand on pense que les hommes, aujourd'hui encore, sont toujours obligés de porter un pantalon. C'est quand même une horreur. Et je ne parle même pas de l'assignation à porter une cravate. Hein. C'est toujours court. C'est presque un scandale.
Enfant solitaire d'une Allemagne lointaine, gosse de riche et enfant de vieux, entouré de livres, de domestiques et de précepteurs. Il est déjà le dramaturge et le décorateur de sa propre vie.
J'étais pensé que j'étais le centre du monde. Je détestais les enfants, en plus, c'était pas vraiment une concurrence très rude, ni à l'école, ni rien, avec la fille du dentiste qui était vaguement correcte et bûcheuse. Quand quelqu'un me demandait, alors, ça va à l'école, je lui tournais le dos. Ça veut dire, c'est des questions à poser à des débiles. J'ai toujours voulu être différent, donc ça, c'est pas une idée de différence, ça me paraissait indispensable et naturel de ne pas être comme les autres. Mais je ne voyais ça pas comme pour être différent, je me savais différent comme ambition, comme intérêt, comme tout. Je ne voulais surtout pas ressembler à ce que je voyais. Parce que les autres, ils avaient des petites chemisettes et des pulls tricotés par maman. Quand ma mère ne les tricotait pas, c'était un risque que je ne courais pas. Et comme personne dans le nord de l'Europe avait des tenues tyroliennes, c'est ça que je voulais. Alors par exemple, j'adorais les chapeaux tyroliens avec la plume ou les blaireaux. Et quand je voulais mettre ça, ma mère, comme on dit peut-être un jour pareil, enfin, ne mets pas ça, t'as l'air d'une vieille lesbienne avec ça. Est-ce qu'on dit ça à un enfant? Et quand je demandais ce qu'était l'homosexualité, vous savez ce qu'elle m'a répondu? Oh, c'est comme une couleur de cheveux. Et au fait, elle avait raison, c'est rien.
Juste pour comprendre, Karla Lagerfeld, êtes-vous pour ou contre l'interdiction du port de la cravate ou du pantalon?
L'interdiction, c'est peut-être un petit peu fort, hein, mais je pense qu'un débat est nécessaire. Je pense absolument qu'il faut maintenant faire un débat sur ces questions de société fondamentale. Il faut que les femmes fassent un effort et arrêtent d'obliger les hommes à porter ces tenues stéréotypées. Mais c'est en tout cas la vérité. Moi, j'ai choisi de faire le pas. Je pense que Karl, il a vécu dans l'obligation de cette lumière et que moi, j'ai eu cette chance. Alors, je pense que comme des millions d'hommes, il n'a pas, lui, eu ce choix. Et je veux un petit peu être un porte-parole.
Nous sommes toujours en compagnie de Karla Lagerfeld. Karla Lagerfeld qui est venue en Suisse, et plus précisément à Genève, pour parler de son livre, son dernier livre, Une robe de chambre à soie. Karla Lagerfeld, quand est-ce que vous pensez que nous arriverons à faire admettre qu'évoluer dans la sphère publique, et notamment politique, n'est pas dévalorisant et quand donc les femmes seront d'accord de s'y mettre? Et surtout, parlez-nous en fait des responsabilités domestiques.
Oui, c'est un petit peu la grande question. Hein. J'ai toujours voulu éviter aussi cette question. C'est ce que j'explique dans le livre. Hein. C'est pas tourner une robe de chambre à soi. Qui est-ce qu'il y a? Quel homme a le droit de rester traîné dans sa robe de chambre? Hein. C'est clairement une domination de femmes. Et en 2011, les hommes doivent pouvoir avoir accès autant que nous aux responsabilités domestiques et ménagères. Écoutez, quand on pense que seulement 4 hommes sur 10 ont accès aux tâches ménagères, et seulement 3 sur 10 quand il y a des enfants. Et encore, hein, là c'est nous sommes dans le meilleur des cas, parce qu'il y a des régions, il y a des endroits où il y a des femmes qui n'entrent même pas en matière. Donc les hommes, ils ont parfois le droit, peut-être éventuellement, de faire la cuisine, hein, de passer peut-être. Mais pour le droit de passer l'aspirateur, de faire la vaisselle, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et il y a beaucoup de souffrance derrière ça masculine. Hein, et il faut savoir qu'il y a quand même comment accéder à cette prestigieuse invisibilité, comment accéder à cette fascinante, tellement intimidante gratuité, hein, de ce domaine, comment faire sauter ce satané plafond de poussière.
c'est la grande question, et puisqu'on parle de la poussière, vous venez en fait de faire l'enchaînement étouffé, puisqu'on parle, on est en pleine actualité de l'affaire DSK, qui est un exemple jusqu'où peut conduire l'inégalité entre femmes et hommes.
Oui, c'est très, très intéressant cette affaire, ce n'est pas pour rien qu'elle défraie la chronique, hein, parce que là on a un exemple très classique et très exemplaire et unique, de aussi gros qu'un homme comme Dominique Strauss-Kahn, hein, quasi obligé par sa femme à se jeter dans l'arène politique, hein, forcé, tandis qu'elle, Anne Sinclair, elle a pourtant été, il faut se souvenir, elle a été une fois une petite, dans le passé, elle a été un exemple de partage des tâches de surmédiatisation.
Mais elle a changé depuis, hein.
Et voilà, comme toujours, les systèmes de domination se refaient, se répètent, et elle est quand même revenue à abuser de nouveau de cette supériorité qu'elle a, le retrait, la shopping de luxe, le soin de beauté, dès qu'il n'y a pas photo, vous les regardez de nouveau, c'est la même chose, la totale suprématie, elle est tellement élégante, tellement truc, elle lui regarde, elle est petite, elle est grosse, elle est mal fagotée, hein.
Édition spéciale ce soir consacrée à l'affaire Dominique Strauss-Kahn.
Dominique Strauss-Kahn arrêté à New York. Le patron du FMI est inculpé d'agression sexuelle.
J'entends déjà des propos qui le condamnent, des propos qui l'accablent, des propos qui l'injurient. Je demande à chacun un minimum de respect.
Dans un communiqué, Anne Sinclair dit qu'elle ne croit pas une seule seconde aux accusations qui visent son mari. Je ne doute pas que son innocence soit établie. J'appelle chacun à la décence. Et elle a retenu.
Cette journaliste française, notamment, filmée au cours d'un repas très parisien, elle raconte y avoir été victime des prétendues pulsions de DSK.
Donc j'ai tout de suite arrêté. Moi, j'ai donné des coups de pied. Il a dégrafé mon soutien-gorge. J'ai essayé d'ouvrir mon jean.
Tout en respectant la présomption d'innocence, il n'en demeure pas moins qu'il existe des soupçons depuis de nombreux mois et même de nombreuses années sur les comportements déplacés récurrents de M. Strauss-Kahn à l'égard des femmes.
Au-delà des accusations graves dont il fait l'objet, c'est toute la campagne des présidentielles françaises qui est bouleversée ce soir.
Alors ça, c'est déjà, évidemment, à partir de là, comment on arrive au drame, eh bien ça va très vite. Cet homme n'a jamais eu sans doute le droit même de toucher d'une petite étagère avec un chiffon. Hein. Il n'a peut-être même pas pu défroisser la moindre chemise, il n'a même pas pu mettre un petit bouquet dans le vase. Alors voilà.
Il a craqué en fait.
Et voilà, c'est l'engrenage. Imaginez, il en arrive à se battre avec une femme de chambre pour pouvoir passer l'éponge dans la baignoire. Et là encore, ce n'est pas possible. Et c'est une situation d'énorme violence. Alors l'enquête le déterminera. Hein. Mais je pense que cette femme a pour le moins abusé hein, de son autorité ménagère. Et le seul bénéfice qu'on peut voir dans cette triste affaire, c'est que peut-être maintenant, enfin, les hommes vont oser parler. Hein. Enfin, il va pouvoir y avoir un témoignage qui vont... De plus en plus, on entend des témoignages hein, d'hommes qui n'ont même pas pu cirer une chaussure, ils n'ont même pas pu coudre un bouton.
Karla Lagerfeld, quel serait, juste en quelques mots, si on vous demandait de définir en deux, peut-être trois mots, le message que vous avez envie de faire passer à toutes ces femmes qui fêtent aujourd'hui les 20 ans de la grève des femmes en ce jour de 14 juin par rapport justement à cette injustice dont vous parlez, cette injustice que dont on parle maintenant sur la place publique.
Écoutez, c'est assez simple. Je le répète, c'est le credo. Il faut faire sauter le plafond de poussière. Il faut que les hommes aient le droit de ne pas toujours être bloqués quand ils veulent accéder à la tâche ménagère. Depuis des siècles, c'est impossible pour eux. Et c'est d'une grande cruauté, d'une grande injustice.
Radio Resistencia.